Clarens, Chambly,
Les Avons,
Charnay, Fontanivon,
Territet. Radio MTX,
Radio MTX,
la radio des élèves de Montreuil-Est.
MTX Montreuil-Est, laissez-vous déboussoler, déboussoler, déboussoler.
Bonjour et bienvenue sur Radio MTX, la radio des élèves de Montreuil-Est. Je me retrouve avec Maëva et Ariette à la technique et Timon et Léo pour leur chronique radio du roman Les Heures Silencieuses.
Gaëlle Josse est une femme de lettres française. Elle est née en 1960. Elle a fait des études de droit, de journalisme.
Venue à la littérature par la poésie, son premier roman Les Heures Silencieuses, paru en janvier 2010 aux éditions Autrement, a obtenu plusieurs prix.
Peter van Beiren est le mari de Magdalena, la fille de l'administrateur de la compagnie néerlandaise des Indes orientales. Issue d'une famille de riches armateurs, Magdalena est rigoureuse, soucieuse d'ordre et d'économie, maîtresse d'elle-même et de son foyer.
Elle aurait pu succéder à son père si le commerce n'était réservé aux hommes et la place des femmes à la maison.
Le roman se présente sous la forme du journal intime de Magdalena. C'est ce qui nous a intéressés pour cette chronique, ce genre littéraire particulier. D'ailleurs, avez-vous déjà lu un livre sous forme de journal ?
Oui, j'avais bien aimé. En 7e, j'avais lu un livre comme ça, mais je ne me rappelle plus du nom. C'était il y a longtemps.
Nous allons vous lire le passage que nous avons choisi. C'est le début du livre. Magdalena explique pourquoi elle décide de prendre la plume. Elle dévoile ses sentiments.
Je n'ai pas de goût pour les confidences que s'échangent les femmes entre elles. Trop souvent, on voit le secret de l'une sitôt franchi ses lèvres, porté à la connaissance des autres. Il devient leur jouet et elles l'en disposent à leur guise. Ce ne sont que des broderies et arabesques. Chacune y ajoute ses motifs et ses couleurs. Et la réalité de l'affaire disparaît sous les ornements. Il ne reste plus rien alors de ces instants où on l'a cru se livrer à un cœur compatissant, à une âme bienveillante et confier son défiance dans un tendre rêve de gémilité, les tournements les plus sombres ou les pensées les moins raisonnables. De cela, je ne veux pas. Par chance, la solitude m'est chère et mes nuits sont longues. Désormais, c'est donc à ces papiers que mon histoire s'adressera. On les trouvera à ma mort, où ils demeureront ignorés de tous. Cela m'importe peu. À mettre de l'ordre dans mon cœur et un peu de paix dans mon âme. À me souvenir des joies passées et à accueillir mes peines, il suffit, cela t'est bien.
Depuis l'enfance, je redoute la nuit, la lumière qui décroît dans le ciel, l'ombre qui tombe à terre, en dévorant les couleurs et en assourdissant les formes, l'emplissement d'inquiétude. Et en dépit de l'âge qui devrait me rendre raisonnable, je ne viens pas à faire taire cette crainte. C'est la lumière du soleil montant, cela des promesses du jour que j'ai voulu pour ce tableau. La journée n'est pas encore écrite et ne demande qu'à devenir. Ce sont mes heures préférées. J'aime le reflet de le miroir de Venise où l'écho de nos silences se perd dans les dorures. Ce tableau me rappelle des heures heureuses, des années où notre maison était moins riche et plus gaie. Dans les premières lignes de son journal intime, Magdalena raconte qu'elle se sent seule et qu'elle écrit pour sortir de cette solitude, parce qu'elle n'a personne à qui se confier. Magdalena explique ne pas avoir confiance. Elle a peur que ses secrets soient dévoilés par des confidentes malhonnêtes.
Elle dit pourtant que la solitude lui est chère, mais que ses nuits sont longues. Désormais, son mari vient de lui annoncer qu'il fera désormais chambre à part. Elle dit aussi que son journal va lui permettre d'écrire ses histoires et ses pensées les moins raisonnables. Le journal intime permet en effet de se lâcher en écrivant toutes ses histoires. Elle ne va pas se gêner de raconter ses histoires les plus sombres.
Ces histoires racontées par Magdalena sont très personnelles. Elle ne les écrit pas pour que les gens les lisent. Elle écrit pour ne pas se sentir seule. Elle le dit elle-même. On les trouvera à ma mort, où ils demeureront ignorés de tous. Cela m'importe peu.
En écrivant toutes ses histoires passées, elle met de l'ordre dans son cœur et la paix dans son âme. Cela l'apaise et cela lui procure du bonheur parce qu'elle se remémore ses aventures quand elle était plus jeune.
Je l'ai trouvé très émouvant. Magdalena parle beaucoup de ses sentiments, ce qu'elle ressent en écrivant son journal pour sortir de cette solitude. Elle nous les transmet avec sincérité.
Donc, Magdalena écrit un journal pour sortir de la solitude et mieux se sentir dans sa peau. Elle confie ses histoires les plus amusantes aux plus tristes.
Grâce à ce journal, en se confiant à nous, elle a réussi à vaincre sa solitude.
J'ai beaucoup aimé ce livre car il nous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, le monde n'était pas du tout le même. En plus, il est assez court et facile à prendre en main vu le vocabulaire. Et en plus, j'aime beaucoup les romans écrits sous forme de journal intime parce qu'on en est plongé dans la vie privée du narrateur.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés.
Maintenant, les chroniques de Maximilien et de Nolan.
Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler du livre Les Heures silencieuses de Gaëlle Josse, paru en 2011. Gaëlle Josse est une auteure du 21e siècle qui a écrit de nombreux poèmes et romans.
Ce livre est un journal intime du personnage principal, Magdalena van Beieren. Elle vit aux Pays-Bas du XVIIe siècle et elle raconte ses émotions, sa vision du commerce et sa vie durant 2 mois.
Dans cette chronique, nous allons vous parler du contexte historique des Pays-Bas au XVIIe siècle.
Le roman est rempli de références historiques. Mon passage en est le point de départ. Il se situe le jour après qu'elle a commencé son journal intime, donc au tout début de ce court livre. Cette prospérité qui est aussi celle de notre République est notre fierté. Nous sommes les commerçants les plus puissants en ce monde, qui ne se sentiraient plus plein d'orgueil, sachant la part qu'il y prend. C'est sur mer que notre domination s'est établie, car nous y sommes habiles. Nos bateaux sont petits, maniables. Ils se contentent d'un équipage réduit. Ce n'est pas le cas des Portugais, des Espagnols ou des Anglais.
Tout contribue à nous expédier sur les océans. Nos sols ne sont que bourbiers, insuffisants pour nourrir le monde qui s'accroît à vue d'œil, si l'on en juge par la quantité d'enfants que les paysannes traînent à leur jupe. Nous ne manquons certes ni de poissons, ni de lait, ni de beurre, ni de légumes, mais cela ne ressaisit pas une nation. Il faut donc partir chercher ailleurs ce qu'on ne trouve pas ici. Ainsi, des villes et des comptoirs naissent-ils partout où nous allons, et nous sommes aussi soldats et bâtisseurs. Nous avons fait la paix avec les Espagnols, qui furent des ennemis redoutables. Ils sont des militaires et des marins orgueilleux, endurcis. Ce sont aujourd'hui les Anglais, nos rivaux sur mer, et ces corsaires français qui nous font grand tort. Ces jours-ci, nous recevons une délégation venue de Bordeaux. Elle a accompli ce long voyage pour nous voir. Les Français sont inquiets. Le mois passé a été cruel pour eux. Nos corsaires se sont montrés rapides et sans pitié. Les prises ont été nombreuses en dépit de pertes lourdes, mais les Français ne font guère de quartier lorsque la situation tourne en leur faveur. Je souhaite que nous parvenions à nous entendre. Nous avons tous à y gagner et bien des vies à épargner.
À terre, la vie se montre clémente. Nos provinces offrent l'asile à ceux qui ne le peuvent vivre en paix. Dans leur pays, juifs, catholiques ou réformés demeurent ici en bonne intelligence et chacun apporte sa pierre à l'édifice commun. L'ordre, la mesure et le travail sont des remparts contre les embarras de l'existence. C'est ce qu'on nous apprend dès l'enfance. Vanité de croire cela, chaque jour qui passe me rappelle, si besoin était, que la conduite d'une vie n'en est rien semblable à celle d'un stock d'épices ou de porcelaine. Ce que nous tentons de bâtir autour de nous ressemble aux digues que les hommes construisent pour empêcher la mer de nous submerger. Ce sont des édifices fragiles dont se jouent les éléments et restent toujours à consolider ou à refaire. Le cœur des hommes est une moindre résistance, je le crains. Magdalena nous raconte le contexte politique des Provinces Unies. Ces provinces viennent de faire la paix avec l'Espagne, car à l'époque, les Pays-Bas étaient sous le joug des Espagnols. Au plein pays, en ce temps-là, des gens se convertissaient à la religion réformée, alors que l'Espagne était très catholique. Cela provoque une rébellion qui a duré plus de 80 ans. À la fin de la révolte, s'est formée une république, comme Magdalena le décrit à la page 17, cette prospérité qui est aussi celle de notre république et notre fierté. Les provinces unies, après la paix avec l'Espagne, vont s'étendre en outre-mer avec des colonies, des villes et des comptoirs. Ils sont obligés de s'étendre hors du continent car Magdalena explique dans ce journal intime, page 18, « Nos sols ne sont que bourbiers, insuffisants de nourrir le monde, qui s'accroît à vue d'œil. Si l'on juge par la quantité d'enfants que les paysannes traînent à leur jupe, nous ne manquons certes ni de poissons, ni de lait, ni de beurre, ni de légumes, mais cela ne rassasie pas une nation. » Elle explique que sa nation n'est pas assez grande pour une économie assez puissante. Les Pays-Bas n'ont notamment pas de mines pour se procurer le minerai dont ils ont besoin. Le pays doit donc acheter les ressources dont il a besoin à l'étranger. La seule solution est donc de s'étendre dans des colonies. En comparant cette information avec celle de la page Wikipédia consacrée au siècle d'or néerlandais, on se rend compte que l'auteur a fait des recherches sur l'histoire de cette nation pour que son roman soit le plus réaliste possible et donne ainsi au lecteur une base pour comprendre les enjeux historiques, économiques et militaires des Pays-Bas. Mais l'aspect historique ne doit pas occulter la forme littéraire de ce roman, celui d'un journal intime. À la fin de mon passage, Magdalena remarque ceci. Ce que nous tentons de bâtir autour de nous ressemble aux digues que les hommes construisent pour empêcher la mer de nous submerger. Ce sont des édifices fragiles dont se jouent les éléments. Elle reste toujours à consolider ou à refaire. Le cœur des hommes est une moindre résistance, je le crains. Ce paragraphe fait une comparaison entre des digues que l'on peut trouver aux Pays-Bas et la fragilité d'une vie, comme nous pouvons nous rendre compte en suivant les pensées de Magdalena.
La partie que j'ai choisie se situe quand le personnage principal, Magdalena, vit avec son mari qui gère l'entreprise de son beau-père, qui était administrateur de la Compagnie des Indes Orientales. Magdalena ne travaille plus depuis qu'elle est mariée. Aînée de plusieurs sœurs, Magdalena a grandi avec l'éducation d'un garçon. Les tâches dites féminines pour l'époque n'étaient pas faites pour elle. Elle préférait travailler dans le commerce de son père avec lui. Elle se montrait brillante dans ces deux domaines, provoquant l'admiration de son père et des hommes qu'elle côtoyait. Elle connaît donc très bien le domaine du commerce maritime. Mais c'est son mari qui hérite du commerce de son beau-père, puisqu'une femme ne pouvait ni hériter ni travailler seule dans ce domaine. La jeune femme reste donc en retrait et laisse son mari s'en occuper, malgré sa frustration. Il en est ainsi qu'à certains moments de notre vie, tout concourt à la vêtir d'épines. Le drame de l'Amsterdam au début de l'été m'a jeté dans un grand trouble où je me débat aujourd'hui encore. Après 4 mois de retard sur son arrivée prévue à Rotterdam, il a fallu se résoudre à admettre une réalité que nous appréhendions. Les témoignages des navires qui ont emprunté la même route après lui, des côtes d'Afrique à celles de Suriname, nous ont contraints d'y faire face. Amsterdam a fait naufrage au large des côtes d'Afrique, peu après avoir appareillé, pris dans une tempête qui a contraint plusieurs bateaux à différer leur départ, tant il était risqué de prendre la mer à ce moment-là. À la lumière des rapports établis par des agents de la compagnie installés sur les côtes d'Afrique, il semble que le capitaine Adrien Oudermelen était très pressé de rejoindre le Suriname. Il est parti avec ses cales chargées au-delà du raisonnable. Nul n'a pu l'en dissuader. Ce sont des hommes que l'Amsterdam convoyait à destination des plantations espagnoles d'Amérique. Je ne sais si cela est juste de transporter des êtres semblables à nous, tels des sacs de noix de muscade ou des tonneaux de cannelle. Nos voyageurs rapportent qu'en ces endroits, les femmes enfantent de la même façon que nous, dans les cris et dans le sang. Leurs nouveau-nés ressemblent aux nôtres, exception faite de leur couleur, et elles les nourrissent avec grand soin, paraît-il. Notre gouvernement interdit l'esclavage sur ses propres terres. Je ne sais donc pourquoi il le permet ailleurs. Ce qui paraît censé dans nos provinces, dans nos provinces unies doit l'être tout autant sous d'autres cieux, me semble-t-il.
De l'équipage, nul survivant. Le Leaf Day, parti peu après l'Amsterdam, n'a retrouvé nul canot, nulle pièce flottant encore, tout a collé par le fond. C'est le terrifiant à imaginer. Pieter est entré dans une grande colère contre le capitaine Undermullen. Homme de mer lui-même, il sait qu'on ne joue pas avec le vent et l'eau, ni avec la vie des hommes. L'enquête qu'il a fait mener l'a tristement renseigné. Nous avons découvert que le capitaine était grand joueur, partout en été. Pas une taverne, pas une tripot, pas une maison de rendez-vous entre Delft et Rotterdam où il ne doivent quantité de florins. Il recherchait la prime à la vitesse avec le plus grand profit possible sur la cargaison. Ses coffres personnels chargés à bord en grand nombre étaient remplis de quantités étonnantes de pacotilles pour des échanges à son seul profit. C'est une pratique courante. Tous les capitaines cherchent à accroître leurs gains lors d'une expédition à acquérir et à revendre pour leur compte des rouleaux de soie, d'indienne ou quelques pièces de porcelaine. Pour cela, des centaines de matelots, de soldats et d'esclaves ont perdu la vie. Ce n'est pas digne d'un capitaine. Je ne sais ce qui a davantage chagriné mon époux de la perte du navire ou de celle de tous ces êtres, de la prudence criminelle du capitaine ou du doute d'avoir agi contre la loi de Dieu en se mêlant de vendre des hommes comme ballots de thé ou fèves de cacao. En cela aussi, il me demeure une énigme et le temps qui passe ne m'aide pas à résoudre le mystère.
De Rotterdam à Delft, des offices ont été dites pour les repos des âmes des noyés. Leurs veuves recevront quelques florins pour prix de leur infortune, qu'à la misère a tôt fait de prendre ses aises, et les réduire à la mendicité avec leurs enfants, ou pire, si elles ne trouvent à se placer comme servantes ou à travailler à la journée, chacun essaiera de tirer profit de leur malheur en les employant à bon marché. Cet argent représente bien peu si l'on songe à la peine d'avoir perdu de la sorte un mari, un fils ou un père aimé. La situation est délicate. Le mari de Magdalena est l'administrateur des navires du commerce. Le naufrage du bateau, l'Amsterdam, révèle que les capitaines de celui-ci avaient chargé ses cales d'esclaves africains. C'est une pratique courante. Tous les capitaines cherchent à accroître leurs gains lors d'une expédition, à acquérir et à revendre pour leur compte des rouleaux de soie, d'indienne ou quelques pièces de porcelaine. Pour cela, des centaines de matelots, de soldats et d'esclaves ont perdu la vie. Ce n'est pas digne d'un capitaine. Magdalena, qui est une femme riante, expose son avis sur cette pratique courante durant son époque, en 1667. L'aspect moral de cet acte est montré sous plusieurs facettes. À la fois par le biais du capitaine Adrien Undermullen, qui a transporté des esclaves par profit, et de Magdalena, qui pense que l'esclavagisme qui est aboli aux Pays-Bas devrait l'être aussi dans les autres pays. Page 70. Notre gouvernement interdit l'esclavage sur ses propres terres. Je ne sais donc pourquoi il le permet ailleurs. Ce qui paraît censé dans nos provinces unies doit l'être tout autant sous d'autres cieux, me semble-t-il. Au cours du XVIe siècle, les Hollandais ont fait leur entrée en Afrique pour essentiellement se livrer au commerce de l'or et de l'ivoire. Puis, plusieurs capitaines et marchands des Pays-Bas ont côtoyé les Portugais en Afrique et commencèrent à s'intéresser au commerce d'esclaves. Si au début, les autorités des ports de la Hollande n'ont pas interdit cette pratique, c'est en 1590 qu'elle interdit le débarquement et la vente d'esclaves d'Afrique dans la ville. Mais cette interdiction n'empêchera pas le transport clandestin d'esclaves africains jusqu'aux Pays-Bas, ni en Occident en général. Le racisme envers les humains des terres d'Afrique était tel qu'ils étaient considérés comme de simples marchandises, en se mêlant de vendre des hommes, comme ballots de thé ou fèves de cacao. Page 71. Magdalena nous offre dans ce livre une partie de l'histoire encore très taboue sur le commerce d'esclaves qui durera, malgré la loi, jusqu'au XIXe siècle.
Ce livre parle beaucoup de l'histoire du commerce maritime des Pays-Bas.
Tout ça par le biais d'un personnage féminin forcé d'accepter son rôle dans la société en tant que femme et épouse. Magdalena voulait être sur le bateau, comme son père ou son mari. Un esprit atypique pour cette époque.
Si vous êtes fan d'histoire comme moi, je vous conseille fortement ce livre, court et agréable à lire.
On continue avec Ainoa.
Le livre dont je vais vous parler, intitulé « Les heures silencieuses », a été écrit par Gaël Josse et publié en janvier 2011. L'inspiration d'écrire ce livre lui est venue d'un tableau d'Emmanuel de Witt, où l'on voit une femme représentée de dos jouant de l'épinette. C'est un tableau d'un peintre hollandais du XVIIe siècle, contexte dans lequel se situe le récit. À Delft, le 12 novembre 1667, Magdalena commence un journal intime dans lequel elle se confie pour échapper à sa solitude. Mon sujet se portera sur l'injustice qu'il y avait envers les femmes de cette époque. Je vais principalement parler du commerce qu'elle pensait hériter de son père, mais qu'il a cédé à son mari, puisque Magdalena devra exercer les tâches propres aux femmes de sa classe sociale. Le père de Magdalena occupait un poste très important. Il était administrateur de la Compagnie des Indes Orientales. Magdalena vit dans un milieu aisé. N'ayant eu que « des filles », entre guillemets, le père va léguer son empire marchand au mari de sa fille aînée. Pourtant, Magdalena connaît très bien les affaires de son père. Par exemple, elle voulait commercialiser le thé en Europe, présentant le succès de cette plante encore inconnue. Dans le passage que j'ai choisi de vous lire, on va pouvoir se rendre compte des talents de Magdalena. Ce passage se situe au début du récit, après que Magdalena ait parlé de la déception de son père qui n'a pas eu de garçon et de sa sœur qui ne peut avoir d'enfant, ce qui provoque la colère de son mari. En tant qu'aîné, j'ai occupé la place du fils manquant. Du moins, je le crois. Ainsi en a-t-il été jusqu'à mes fiançailles avec Peter. Alors capitaine du Raven, l'un des navires de la compagnie armée, le commerce du poivre, de la muscade, de la cannelle et de toutes ces marchandises que le monde convoite de nos jours. Depuis longtemps que je me souvienne, les histoires de marine et de négoces m'ont tenu lieu de conte, et je m'endormais bercé par des songes peuplés de navires, d'océans, d'îles, de cités lointaines, d'animaux et de peuples extraordinaires. Dois-je confesser ici que je prenais le plus grand plaisir aux conversations sérieuses qui me grandissaient aux yeux de mon père et me tenaient éloignée des choses de la maison? La couture m'était un supplice, je ne savais que me piquer au sang en tâchant mon étoffe, tout comme le lavage des sols de chaque pièce à grande eau. Chaque semaine, il fallait sortir tous les meubles, y compris dans les pièces où on ne pénétrait que deux fois l'an. C'est à ce prix qu'une femme se faisait respecter de ses domestiques et de ses voisines, semble-t-il. J'ai dû plus tard m'y résigner et ordonner que l'on fasse chez moi de même. Je ne montrais pas davantage de disposition pour la cuisine, n'étant pas gourmande de nature, dégoûtée par les bêtes mortes et leurs odeurs, avec les peaux, poils, plumes, têtes, écailles ou entrailles des poissons et gibiers qu'il fallait apprêter pour les repas. On tolérait mon épinette, encore que ma mère me reprocha d'y passer trop de temps. Lorsqu'elle s'en ouvrait à mon père, celui-ci se contentait de hausser les épaules. « Ne cherchez pas querelle à Magda, Rachel, je vous le demande. » Elle se gardait alors d'insister, redoutant de s'entendre dire, une fois de plus, combien la présence d'un fils dans cette demeure aurait changé les choses. Pour ma part, j'étais heureuse de mon sort et me plaisais à questionner mon père sur ses affaires. Ainsi, dès que j'ai su lire, écrire et compter, tout ce qui touchait à la façon d'engager ou d'emprunter l'argent, à l'entretien des navires et aux frais d'équipage, au risque de mer, à la marche de nos comptoirs, au prix en cours dans les magasins, à l'organisation des ventes, aux discussions avec les fournisseurs de vivres, aux bénéficiaires sur la cargaison, aux procès à mener contre un actionnaire déloyal de la compagnie ou un courtier indélicat, m'était aussi familier qu'une simple promenade au bord du canal. Comme nous le montre ce passage, Magdalena a occupé toute son enfance la place du fils manquant. Magdalena était heureuse d'occuper ce rôle car elle pouvait faire toutes les tâches citées à la fin du passage, comme gérer les emprunts ou les prêts, discuter avec les fournisseurs, mener des procès contre les collaborateurs malhonnêtes. Elle avait ainsi accès à l'espace public parce qu'elle était accompagnée de son père qui la traitait comme s'il s'agissait de son fils. Elle se sentait reconnue aux yeux de son père. Ses responsabilités sérieuses lui permettaient d'échapper aux tâches dévolues aux femmes à cette époque. Coudre, cuisiner, faire le ménage, toutes ces activités domestiques ingrates qui ne suscitent aucune reconnaissance parce qu'elles sont vues comme faites partie de la nature féminine. Quand sa mère lui reprochait de trop jouer de l'épinette, son père exigeait de sa femme de la laisser tranquille. La mère de Magdalena se taisait par peur que son mari ne lui reproche d'avoir su enfanter que des filles. Et oui, au XVIIe siècle, les maris pensaient que seules les femmes fabriquaient les enfants. Et les femmes culpabilisaient de ne pas réussir à faire des garçons. Ils n'avaient pas de connaissances en génétique. C'est pourtant bien le Y de l'homme qui fait le garçon. Passons maintenant à un second passage dans lequel Magdalena exprime son plaisir à courir sur les bateaux. Il se situe quelques pages plus loin. C'est le moment que j'attendais. Je ne pensais qu'à courir sur le pont, monter et descendre en tous sens, découvrir passages et passerelles, gagner la proue, manœuvrer le gouvernail, interroger les boussoles, toucher l'acier des canons, compter les sabords, les mâts, enjamber les rouleaux de cordage, demander le nom de chaque voile, inspecter les cales, les cuisines, visiter chaque soute et m'étourdir d'odeurs inconnues. Un jour, un matelot me montra un petit singe qu'il serrait dans sa chemise. Je voulus m'emparer de l'animal. Terrorisé, il chercha à me gifler pour se défendre et grimpa prestement le long d'un mât, où il demeura sans bouger. Le marin fut fouetté car ma jeune personne était sacrée. Il n'était pas convenable qu'elle ait été exposée à un tel danger. J'étais effrayée, étourdie, enchantée. Je priais pour que cela ne finisse jamais. Du pont, je me grisais de l'agitation sur les quais, des cris, du déchargement précautionneux de toutes les richesses extraites du ventre du navire, de leur acheminement vers les longs entrepôts gardés par des soldats, casqués, hallebardes au poing. On redoutait le vol et l'incendie. Et je ne crois pas que l'or d'Aérus ou les mines d'or du roi Salomon aient été mieux gardées. Mon père, ses entretiens terminés, me faisait chercher. Nous repartions avec les compliments des officiers réunis autour de l'échelle de coupé, trois dans leur sombre uniforme d'appart à boutons d'argent agrémentés de collerettes immaculées. Chapeau bas. J'étais loin de la maison, de la tristesse dévote de ma mère, des mouchoirs à ourler, des serviettes à compter, des draps à recoudre, du linge à recommoder, de toutes ces airs entendus que prennent les femmes entre elles et qui souvent leur tiennent lieu de langage. J'étais comblée, je vivais ô combien. En devenant malgré moi avec mes premiers sangs une demoiselle, j'ai dû cesser mes courses folles sur les ponts, sous les yeux de l'équipage, mi-amusé, mi-inquiet, bonnet à la main, prêt à me garder d'une quelconque chute. Instruite de la réalité du commerce et des vaisseaux, j'assistais désormais avec mon père aux conversations d'affaires dans le carré des officiers. C'est ainsi que j'ai croisé le regard de Peter Van Beyen, alors capitaine en second sur le Raven. Pour la première fois, j'ai tremblé. Magdalena a du plaisir à courir, à être libre de ses gestes. J'étais effrayée, étourdie, enchantée. Je priais pour que cela ne finisse jamais. Ses sentiments s'opposent à ceux qu'elle utilise pour décrire l'univers fermé de sa maison. J'étais loin de la maison, de la triste dévote de ma mère. Sur les bateaux, elle a vraiment le sentiment de vivre. J'étais comblée, je vivais ô combien. Malheureusement, Magdalena perd ce paradis avec l'apparition de ses premières règles. Devenant malgré moi avec mes premiers sangs une demoiselle, j'ai dû cesser mes courses folles sur le pont. Elle perd une partie de sa liberté et de ses mouvements. À la fin du passage, Magdalena rencontre pour la première fois celui qui va devenir son mari. Elle ne se doute pas à ce moment qu'en l'épousant, elle perdra définitivement sa liberté. J'ai choisi ce thème car je trouve injuste la position des femmes à cette époque. Une femme devait rester à la maison en se pliant aux règles de son mari. Elle était cotonnée aux tâches domestiques, discrète et peu reconnue contrairement à celle des femmes. J'ai bien aimé que l'histoire parle des femmes au XVIIe siècle, mais je n'ai pas aimé les tâches qu'elles étaient obligées de faire.
On vous remercie d'avoir écouté toutes ces chroniques. Merci et à bientôt.
Clarens, Chambly,
Les Avons,
Charnay,
Fontanivon,
Territet.
Radio MTX,
la
radio des élèves de Montreux-Est.
MTX Montreux-Est, laissez-vous déboussoler.